Alors, télévision, pourquoi ce film d'abord? C'est un film qui s'inspire de l'édition, la première édition critique du roman de Diderot, qui est très connu d'ailleurs maintenant, Marie-Luce, qui avait été préparée, la première édition critique, c'est-à-dire la première édition sans coupe, sans censure, préparée par Robert Monzi en 1961. Dix ans auparavant, avait été ouvert le fonds de manuscrits de Diderot, le fonds de Vandeuil à la Bibliothèque nationale de France. Et Robert Manzi, qui est un spécialiste de la philosophie et de la littérature française, a préparé la première édition sous ce manuscrit original. Alors, dans ce livre, on trouve la vraie histoire, la véritable histoire de Suzanne Simonin, qui est une sorte d'alter ego de la vraie religieuse qui était mentionnée au début du film. Ah, une petite parenthèse. Tout le début du film, avec la présentation de la vie religieuse, avec les citations de Bourdaloue, de Benny Bossuet, etc., ont été imposées par la censure. C'est-à-dire que Jacques Rivette n'avait pas prévu cette espèce de mise à distance du film à travers une explication érudite. Hein? Il avait tourné le film sans aucune référence au contexte historique. Cela a été imposé par la commission de censure en 1965, avant la sortie du film dans les salles. Revenons à l'histoire de la vraie religieuse dont le livre s'inspire. L'histoire de Suzanne Simonin s'inspire de la vraie histoire de religieuse qui en 1758 avait été enfermée dans un couvent, c'est un cas assez répandu dans l'Ancien Régime, contre ses voeux. Elle avait fait déposer une plainte, elle avait fait donc appel aux lois pour se désister de son état de religieuse. Elle avait perdu son procès. Et à cette cause, les philosophes s'étaient intéressés. Diderot, d'Holbach, la coterie d'Holbach et toute la philosophie française de l'époque s'étaient engagés donc pour la défense de cette religieuse. Ils n'ont pas réussi à la libérer, mais finalement, Diderot pense de bien construire une sorte de, disons, mise en scène littéraire fantastique, enfin, inspirée de cet événement tragique, pour, disons, en tirer un message philosophique. Bon, il y a essentiellement deux questions fondamentales. La question de la critique des couvents, ça se voit très bien. Donc la grande question de la vocation et de la contrainte sociale. Et l'autre question, c'est celle de l'enfermement. Donc vocation et retraite, enfermement, ce sont les deux grandes questions philosophiques que Diderot soulève. La religieuse est, comment dire, contrainte contre sa vocation à une vie qu'elle n'a pas choisie. La victoire de la contrainte sur la liberté s'exprime non pas seulement à travers la défaite du personnage, mais surtout à travers les figures qui sont autour. C'est-à-dire la censure est d'autant plus efficace dans la mesure où elle arrive à s'imposer sur les consciences qui ne sont pas capables de se rendre compte de leur propre suggestion. C'est-à-dire, les religieuses qui ont prétendument choisi d'être dans le couvent ne se rendent pas compte de la contrainte qu'elles ont subie. Et c'est là la question qui a fait scandale à l'époque. C'est-à-dire, montrer la vie religieuse dans son aspect qu'à l'époque, Diderot tenait pour un aspect contre-nature. Et voilà, il y a toute une histoire de censure qui commence en 1962 sur sur le premier scénario, sur la première version de La Religieuse, qui était d'abord une pièce de théâtre. Alors, d'après ce livre, Rivette et Jean Brouault, les deux auteurs du scénario, ont monté une pièce de théâtre qui a été une pièce qui a été mise en scène au théâtre de l'Élysée en 1963, donc 2 ans après cette édition. La pièce a eu un grand succès et alors les deux auteurs ont pensé bien d'en tirer un film qui pouvait avoir un plus grand public. Et là, ça commence l'histoire de la censure de La Religieuse. Alors, il y a 3 actes dans cette histoire de censure. Et je vous signale, si vous êtes intéressé à ça, un livre très intéressant qui a étudié de près cet événement. C'est le livre qui avait ici entre mes mains. Excusez-moi, je ne vais pas regarder le micro. C'est le livre de Suzanne Vigneault, intitulé L'affaire de La Religieuse. Une affaire qui se déroule en 3 temps. Donc, le premier temps, c'est celui de la pièce de théâtre, qui a un grand succès. L'adaptation de l'œuvre de Diderot au cinéma. Une première version qui était refusée par la commission de pré-censure. Il y avait une commission de pré-censure qui examinait les scénarios avant qu'ils deviennent des films. À ce moment-là, Rivette et Gros sont contraints de changer leur scénario. D'effacer par exemple des scènes entières que j'ai reconstruites grâce aux manuscrits qui ont été donnés par Rivette lui-même à la Cinémathèque française. Et dans ces manuscrits, on trouve des scènes entières coupées par Rivette lui-même qui mettait en scène par exemple des dialogues philosophiques entre d'Holbach, Diderot, M. Manoury, l'avocat, qui étaient des protagonistes dans le film, dans la première version du film, et qui disparaissent dans la dernière. Donc ce premier acte, disons, de l'affaire de La Religieuse, est un acte d'autocensure. Donc Dick Rivette est contraint par la commission de pré-censure de s'autocensurer, d'effacer certains scènes. Il y a un second temps de cette affaire, c'est le moment où à la veille des élections politiques de 1965, il y a toute une affaire politique, les milieux catholiques sont en remous à cause de l'annonce de ce film. Il y a toute une mobilisation donc des religieuses françaises et même étrangères, même italiennes, contre la sortie de ce film. Et le gouvernement de Gaulle, avec son ministre de la Culture, qui était un homme de culture très très connu, André Malraux, se mettent contre la sortie de ce film, pour des raisons électorales. Bon, ils ne veulent pas se mettre, disons, contre les électorats d'origine catholique. Et alors, c'est le moment où La Religieuse est totalement interdite, à la fin de toute une affaire de révision, de contre-révision, d'autocensure ultérieure de la part de Rivette. Et donc le film est interdit. On est en 65, les élections se déroulent en décembre. Après les élections, alors il arrive le troisième temps, le troisième acte, c'est que la commission, donc il y a un nouveau gouvernement, la nouvelle commission permet de sortir le film interdit aux mineurs de 18 ans. Alors, en ce moment-là, il y a toute une mobilisation de la part, cette fois-ci, du monde du cinéma, des intellectuels, des philosophes, en défense de l'ouvrage de Rivette. Il y a donc toute une mobilisation qui arrive finalement à obtenir le résultat de permettre au film d'être présenté au Festival du cinéma de Cannes en mai 1966. Donc le film avait été interdit dans les salles françaises, mais il va représenter la France au Festival de Cannes. C'est une histoire tout à fait drôle, parce que c'est le troisième acte, finalement. Le film, attention, il sort à Cannes, mais il est interdit au public, parce qu'il avait été interdit dans la sortie de ça. Donc seulement un public de spécialistes, de metteurs en scène, les critiques de cinéma peuvent y assister. André Malraux entre disons, dans une sorte de compromis avec son gouvernement dans la mesure où il permet cette opération ambiguë et hypocrite de faire sortir le film à Cannes mais de ne pas faire voir au public. Mais entre-temps, ce troisième acte se clôt par la victoire de la mobilisation des intellectuels et des cinéastes français, parmi lesquels il y avait Jean-Luc Godard, Chabrol, etc. Toute la nouvelle vague se mobilise en défense de la liberté d'expression, justement, hein, et finalement dépose une plainte auprès du tribunal administratif qui, en fin juillet 1967, après une longue démarche judiciaire, casse pour vice de forme la décision ministérielle. Et finalement, enfin, fin 1967, le film peut sortir dans les salles publiques. Donc, vous voyez, donc, il y a toute une histoire qui est le miroir exact au XXe siècle de ce qui s'était passé au XVIIIe. Alors, c'est là l'intérêt de ce film. C'est qu'il y a toute une histoire de reflet historique entre le XVIIIe siècle d'une part et le XXe siècle de l'autre.
Oui. Excusez-moi, c'est juste en fait, il est présenté au Festival de Cannes, il n'est pas sorti en salle, et c'est ensuite avec la mobilisation des intellectuels voilà. Qu'il sort et qu'il est interdit au moins de 18 ans, parce que vous avez
dit
tout à
l'heure.
21. Non, du coup, j'ai perdu le fil, parce que tout à l'heure, vous avez dit il est interdit au moins de 18 ans, mais c'est en 67 quand il est sorti en salle.
Oui, bien sûr. Et il reste, quand je dis. À part 21 ans, hein, 18 ans, d'après mes
On était majeur qu'à 21 ans.
Comment ?
On était majeur qu'à 21 ans.
À l'époque.
À l'époque, oui, mais la
commission. Ah, mais moi j'ai vu le film à l'époque. Moi.
Vous l'avez vu ?
Je l'ai vu. Ah, ce que vous avez oublié de dire, c'est toutes les manifestations qu'il y a eu de la droite et l'extrême droite.
Ah oui ?
Il y a eu des bagarres terribles. Il y a l'extrême gauche, sert de service d'or.
Oui. Mais disons aussi que le film reste interdit jusqu'en 1989.
D'accord.
Donc, pendant deux temps, hein, quand même une vingtaine d'années. Donc le film sort, mais avec cette limitation, et en plus, ne sort pas dans les salles étrangères. En Italie, il n'est jamais sorti, par exemple. Bien sûr. On n'a pas une pellicule. Oh, moi, j'ai cherché partout dans toutes les cinémathèques italiennes, et je n'ai rien trouvé. Et il n'existe pas, en effet, une version doublée de ce film en italien. L'autre chose intéressante, c'est que le film, finalement, au moins en France, malgré l'interdiction, connaît un grand succès commercial, comme on connaît bien par d'autres expériences postérieures. Lorsqu'on interdit, on fait un procès à un film, il se substitue de l'intérêt. Donc, j'ai des données ici, le film a rencontré en 5 semaines 165 000 entrées et gagne plus de 160 millions de francs. Et le nombre d'entrées totales sur Paris fut de 270 000 634. Donc, c'était pour Beauregard, le producteur, un bon succès commercial. Il a lancé un défi parce qu'il risquait de perdre beaucoup d'argent. Mais finalement, au bout de 3-4 ans, hein, il a bien gagné son argent investi au début. La chose intéressante, c'est que les auteurs, notamment Rivette et Jean Gouault, ont toujours refusé l'étiquette, disons, d'un film anticlérical. Jean Gouault disait « C'est le plus catholique et le plus pur de tous mes films. » Je rends grâce à la censure, j'ai fait découvrir Diderot. Parce qu'elle a vendu 93 000 copies de ce livre ici. Hein, donc,
c'est quel éditeur, ce monsieur ?
C'est Gallimard.
C'est Gallimard.
Et le premier éditeur, c'était Collin. Enfin, après être révélé par Gallimard, et il y a encore cette édition par Robert Mosi. Mais qui était. C'est difficile aujourd'hui à trouver la même édition qu'il y a.
C'est 61.
C'est 61, la toute première, après il y a plusieurs éditions. Mais en 67, c'est le moment où le film connaît le film et le livre surtout connaît finalement un succès populaire, disons. Hein, donc, c'est les moyens par lesquels le cinéma a réussi à faire connaître la philosophie des Lumières, la critique de Couvent et l'idéologie philosophique du XVIIIe siècle au grand public. Le cinéma donc a joué le rôle de porte-parole.
Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui.
À votre avis, est-ce que le film est plus critique, plus fort que le livre?
Alors, ça, c'est une bonne question, parce que, voilà, ça pose le problème de la fidélité, au moins, de ce scénario par rapport au livre de Diderot.
Parce que alors, c'est quand même très, très fort.
Le livre, à mon avis, est un livre beaucoup plus radical que le film.
Ah bon?
Oui. Il y a des scènes où Diderot, il faut le lire, hein, il y a des scènes, par exemple, les scènes où vous osez, disons, sur le rapport lesbienne entre la religieuse au couvent de Sainte-Trope, qui là sont simplement, comment dire, esquissées. Tandis que dans le livre, il y a des véritables descriptions d'orgasme. Alors là, Rivette n'a pas osé aller si loin que Diderot. Je dis cela pour ce qui concerne l'aspect, disons, le plus superficiel. Mais même dans le point de vue, d'un point de vue philosophique, si l'on peut dire, il y a des passages où le cinéaste met une sorte de voile devant la radicalité de l'écriture. Alors, l'écriture est plus radicale. Il y a aussi des différences dans les finales. Par exemple, dans le livre, la religieuse ne se suicide pas. Le livre ne se termine pas par un suicide. Le livre se termine avec la destinée ouverte de Saint-Simonin comme blanchisseuse dans une maison de campagne qui attend encore sa libération. Pourquoi le suicide? À mon avis, j'essayais d'en parler avec Rivette lui-même parce que j'ai eu des échanges avec le cinéaste. Que je prépare un livre là-dessus. Il y a un épisode dans la vie, un événement dans la vie de Diderot lui-même, que les critiques du cinéma n'ont pas mis en évidence, c'est que Diderot avait connu un drame familial très, très important dans sa jeunesse, c'est le suicide de sa sœur, sa petite sœur, dans un couvent, à cause de ce même problème. Problème de manque de vocation. Elle était devenue folle, Angélique Diderot, la petite sœur de Diderot, elle s'était suicidée dans un couvent. Depuis ce moment-là, Diderot a nourri une sorte d'hostilité profonde pour les couvents, pour les vocations forcées. Et évidemment, il montre dans ce roman la possibilité que la religieuse se suicide, mais la femme ne fait pas accomplir ce geste. Tandis que Rivette, finalement, a choisi de le faire. Donc, l'a fait suicider.
D'autant que son frère était prêtre et chanoine.
Voilà,
et qu'il se haïssait.
Oui,
justement. Le frère haïssait peut-être plus Diderot que Diderot ne haïssait le prêtre. Enfin, son frère prêtre.
Oui, c'est vrai. Donc, il y avait ce rapport difficile entre les deux frères qui avaient connu la petite sœur Angélique. Hein, et qui avait subi cette sorte, cette destinée tragique, et Diderot, d'après cette expérience, vraisemblablement, continue à penser à la condition des couvents comme une condition dangereuse pour les filles. Donc, les deux thèmes, donc la retraite et la vocation, ce sont les deux grands sujets de critique philosophique de la part de Diderot. Qui met en scène donc le drame d'une conscience contrainte à une vie qui n'est pas la sienne. La sociabilité aussi. Pourquoi? Il y a tout un côté physiologique dans le livre, donc des examens, des effets que la vie dans un couvent contre nature entre guillemets produit sur le physique, sur les corps, les femmes notamment. Alors, il y a là toute une série d'observations physiologiques dans le roman qui sont simplement esquissées là aussi dans le film, mais pas suffisamment. Là, l'écriture est beaucoup plus efficace à ce point de vue. Donc, le livre les exprime et le film n'arrive pas à les faire. Donc, il y a toute une physiologie du corps malade, du corps contraint, qui n'émerge pas assez dans, le, dans la pellicule. Une autre chose, c'est le titre du film. Le film s'intitulait La religieuse, tout court. La religieuse, le même titre du roman de Diderot. La commission de censure a prétendu que le titre était plus long. Suzanne Simonet, La religieuse de Diderot. Ça, c'est le titre final. Mais même le titre était différent. La première version du scénario, celle de 1963, portait le même titre du roman. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour conclure? L'affaire de la religieuse est aussi, dans une certaine mesure, l'expression d'une politique philosophique dans le cinéma français des années 60. C'est-à-dire que, et là je prends un peu la. Je pose aussi d'autres questions philosophiques, si on veut, sur le film et sur le roman. Le rapport entre le cinéma et la philosophie, la morale dans le cinéma. Rivette se réclame d'une sorte de leçon de vérité morale et il s'inspire des idées d'André Bazin, son maître, le grand théoricien de la Nouvelle Vague, du nouveau cinéma, qui écrivait dans son Ontologie du cinéma, disait que le cinéma exprime toujours une position morale du cinéaste à l'égard de la réalité. C'est-à-dire que à travers le cinéaste exprime une certaine vision du réel. Il y a une ontologie, c'est-à-dire une position sur ce que c'est la réalité. Et le film doit être le porteur de cette vérité, cette expression de vérité morale. Et dit Bazin, il n'y a d'autre que cela, une position morale du metteur en scène, sans aucun doute. D'un côté, le rapport avec les personnes qu'il filme. De l'autre côté, le rapport au spectateur, à travers la manière par laquelle le metteur en scène choisit de transmettre ce qu'il a filmé. C'est ça, c'est André Bazin qui dit ça. Rivette se réclame de cette leçon de vérité morale lorsqu'il prend sujet de son travail de cinéaste l'histoire de la religieuse de Longchamp. Il y a une affinité élective donc entre Rivette, cette poétique de la réalité dans le cinéma, une poétique réaliste qui s'inspire aussi du cinéma italien, du néo-réalisme italien de Rossellini, De Sica, etc., du cinéma des années 50 en Italie, qui était un peu le modèle aussi de même André Bazin et Rivette. Il y a une affinité élective donc entre Diderot et Rivette de ce point de vue. La volonté d'exprimer une position morale à l'égard de la réalité. Et Rivette, parmi la bande des quatre cinéastes de la Nouvelle Vague, Romer, Godard, Truffaut et lui-même, est sans doute, à mon avis, le plus philosophe, entre guillemets, parmi les autres. Et Rivette a écrit aussi une lettre sur Rossellini qui prend position de cette façon à l'égard de la tâche philosophique du cinéaste à l'égard de la réalité. L'adaptation, c'est un film qui avait été conçu comme une véritable adaptation fidèle du roman de Diderot. Cela n'a pas pu être, parce que finalement, les personnages qui faisaient partie du premier scénario, c'est-à-dire les philosophes eux-mêmes, ne paraissent pas. Dans la pellicule. Diderot, d'Holbach, toute la coterie d'Holbach, d'Alembert, qui discutent ensemble et aident dans le scénario l'avocat Manouri à libérer Suzanne, ont disparu. Ils ne sont plus là. Mais nous avons dans les papiers de Rivette des scènes entières, des dizaines de pages, qui gardent mémoire enfin, de cette première ébauche. Première ébauche du scénario de la représentation originelle. Et donc, mon vœu, ce sera de publier donc un livre qui met en confrontation les deux et rend justice un peu à cette première élaboration si originale qui est celle de la pièce de cinéma, pièce de théâtre de laquelle le film est tiré. Et donc nous aurons, j'espère, dans peu de temps, un texte critique qui rende un peu justice à cette histoire, surtout à l'histoire donc d'un défi finalement gagné par les cinéastes pour la liberté de penser, la liberté d'expression et surtout la liberté de débat, parce que finalement ce film a suscité beaucoup à l'époque beaucoup de débats. Aujourd'hui certaines scènes font un peu rire, hein, j'ai entendu des rires dans la salle, mais c'est normal parce que c'est un demi-siècle qui s'est écoulé, mais il reste cette histoire qui est une histoire exemplaire, comment un combat philosophique a pu être gagné dans le temps grâce à l'engagement non seulement des littéraires, mais aussi du public. Le public qui a ouvert les portes à ce film et encore aujourd'hui, bon, il vaut la peine de le voir. Je m'arrêterai là. S'il y a des questions sur l'histoire de cette pellicule et sur certains détails, moi je l'ai vu des dizaines de fois maintenant.
Excusez-moi, juste une question, c'est par rapport à la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, donc il y a les philosophes qui sont dans la pièce, d'accord.
Tout à fait.
Donc oui, c'est la version longue en quelque
la
sorte,
longue.
Qui correspond au manuscrit plus ou moins qui est à la cinémathèque.
Exactement.
Et vous voulez comparer les deux en fait.
Bien sûr, mais
par rapport au résultat.
Si
final,
vous allez au département de spectacle de la BNF, vous pouvez vous-même demander en lecture. Pardon.
À la BIFI, à la bibliothèque.
La Bibliothèque nationale de France, il y a un département d'art et spectacle, où il y a des dactylographies originales de 1963. Mais il y a aussi à la Cinémathèque, la Cinémathèque française, il y a maintenant, depuis un an, pas plus d'un an, tous les matériaux que Rivette a laissés en héritage, à se débarrasser un peu de tout ce scénario et à donner. Faire donation à la bibliothèque.
D'accord.
La cinémathèque, où on trouve, et j'ai trouvé là, justement, tous les, même les ébauches manuscrites des premières scènes. Donc, voilà. La première pièce, le théâtre, elle est gardée, évidemment.
D'accord.
Et votre livre sera publié en français ?
Oui.
Oui.
La plupart de mes livres sont en français, même si je parle assez mal.
Ah non.
Oui.
Moi, c'était juste pour signaler qu'il y avait actuellement à Paris une interprétation de la religieuse au carré Sylvia Montfort.
Ah bon.
Je
ne
sais pas si vous l'avez vu, qui est une interprétation très intéressante, où donc, il y a tout un jeu avec un raillement, ce qui symbolise l'enchaînement, la clôture, justement.
Oui.
Enfin, je vous recommande d'aller voir.
Maintenant, vous dites
En ce moment, oui.
En ce moment même.
En ce moment, Sylvia Montfort. Et sinon, pour revenir sur le fond, sur l'histoire que vous racontez, sur la condition des filles enfermées, il y a un certain nombre de religieuses qui ont écrit sur leur situation et dont on a gardé les textes. Je ne sais pas si vous allez en parler dans votre ouvrage, s'il y a cette dimension historique ou pas, mais
oui,
c'est intéressant. En Italie en particulier, il y a une religieuse qui elle est restée, mais elle a écrit des mémoires et tout, qui s'appelle Tarabotti, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en France, on a une philosophe, alors c'est un peu avant, c'est 1700 en fait, Gabrielle Suchan, qui a écrit également et dénoncé la situation de clôture et qui, elle, est arrivée à se faire résilier ses vœux. Donc, il y avait quand même certaines d'entre elles qui gagnaient leur procès, quoi. C'est intéressant à savoir.
Ah oui. Ça me fait venir à l'esprit un détail aussi sur encore le scénario originel. Il y avait un final différent dans une des versions qui ont été censurées, et Suzanne Simonin ne se suicide pas, mais elle est renfermée dans un cachot, comme elle dit, elle craint toujours d'être rattrapée par la police, et renfermée dans le couloir à force. Et donc l'autre finale est qu'elle est donc enfermée dans un cachot, elle y reste 30 ans, elle est libérée à la Révolution française, 30 ans après. Alors, il y a tout un final où il y a les citoyens qui ouvrent le couvent, cassent les portes, elle est blottie en soi-même, même folle, la demi-folle, et elle ne reconnaît même pas qu'arrive la liberté. Hein, au final, très très joli, qui serait peut-être beaucoup plus efficace de celui qu'on a vu. Mais ce final a été finalement possible, lui aussi.
Censuré.
Voilà, donc il y a pas mal de versions, des passages aussi à l'intérieur des scènes centrales du film qui ont été là aussi cassées, coupées, qui sont intéressants à remettre en place, l'édition complète du scénario et en parallèle avec l'analyse historique aussi, et toute la polémique que Diderot n'est pas le seul à ouvrir à l'époque. Bien sûr, il y avait tas de mémoires, de plaintes, de publications contre les vœux forcés. C'est un phénomène assez répandu. Parce que c'était un phénomène par lequel on pouvait résoudre des problèmes familiaux, pas comme on le montre le film, à travers la fermeture, la clôture forcée dans le couvent, des filles naturelles, comme le cas de Suzanne. Je pense que s'il y a d'autres questions, sinon on va se coucher.
Une chose que je voulais dire, c'est que, parce que je l'ai vécu ce que vous racontez là. Et, mais à gauche, il n'avait pas été si bien accueilli que ça.
Hein. À gauche.
Et, parce que je ne trouvais pas assez radical le film.
C'est vrai que.
Il y a la critique, bon, il n'est pas fidèle au roman, après, surtout, ils auraient vu la critique de gauche d'être française, je ne me souviens plus, mais il y avait. Donc, il trouvait ça timoré comme film.
Oui, en effet, oui. C'était Rivette lui-même qui avait cautionné cette lecture.
C'est ça, et que s'il n'y avait pas eu cette histoire de censure, il n'aurait pas connu la mobilisation qu'il a connue à gauche, quoi, je veux dire.
Oui, c'est vrai. D'autant plus que ce que Rivette lui-même s'est toujours défendu de l'accusation d'être athée.
Voilà. Ça fait beaucoup de débats, ça.
Ça fait beaucoup de débats, oui. La question de la. Disons de la. Du caractère de gauche, disons,
voilà,
de ce film.
Il n'a pas enthousiasmé le film.
Ce n'est pas la question, à mon avis. C'est autre chose. Le combat politique a été joué tout sur la question de la mobilisation de l'électorat catholique pour le gouvernement de gauche. Voilà. Finalement, à mon avis, ils s'en fichaient du gouvernement de gauche, du film, de l'orthodoxie ou de l'orthodoxie gauche.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Surtout, c'était une période de censure à l'époque. Ça n'arrivait pas les censures à l'époque.
Oui.